Et malgré tout, nous avons une certaine assiette. Un mélange fragile, mais stabilisé de perception et de sens, qui fait qu'au quotidien, nous tenons le milieu. Le milieu fragile qu'est notre monde, quelque part entre le tout et le rien, entre l'absurde et le sublime. C'est un extrait d'un livre de Arthur Lochman, qui est philosophe, charpentier, et également amoureux de la montagne. Un livre qui s'appelle « Toucher le vertige ». Bonjour Marie-Pierre Dylan Seger.
Bonjour.
Vous êtes praticienne des arts stratégiques chinois appliqués. C'est un terme qui recouvre aussi bien l'énergétique chinoise que le yi-qing, que le feng shui, que les arts de la guerre ou l'astrologie encore. Vous nous expliquerez un petit peu ce que ça recouvre. Votre ouvrage qui est paru chez Mama Édition, qui s'appelle « Debout, la force de s'incarner », nous a inspiré le thème de ce podcast « Dans l'œil du cyclone ». Ma première question va être en lien avec ce texte que je vous ai partagé de Arthur Lochman. Êtes-vous dans votre assiette en ces temps troublés ?
Je tente d'y être, sans aucun doute. Et l'une des manières d'y rester est d'avoir par moments fermé les écoutilles.
Nous avons parlé un petit peu hors antenne. Vous m'avez dit que vous étiez debout. Ça reporte, évidemment, ça nous ramène au titre de votre livre, « Debout, la force de s'incarner ». Comment restez-vous debout et comment vous redressez-vous de l'intérieur entre les épreuves, je dirais, collectives que nous traversons, mais aussi les épreuves plus intimes que vous pouvez vivre au quotidien ?
Et un deuil récent cet été. Alors déjà, presque en clin d'œil, il se trouve que je travaille debout. J'ai longtemps été assise avec une table normale et une chaise, comme tout le monde, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que consultation après consultation, cette posture-là ne me permettait pas, donc en intérieur, d'avoir la même, c'est presque évident, la même verticalité, la même connexion à moi-même. Je travaille debout. Je vous parle là, face à mon écran, mais debout. Comment est-ce que je fais ? C'est que ça reste un défi, déjà, disons-le quand même. Mais c'est que tous les jours, chaque fois qu'il est possible, je me rapproche et je garde le lien avec ce que je sais qui nourrit ma force. Ça peut être une mémoire joyeuse, ça peut être un chant d'oiseau, ça peut être, et c'est surtout d'avoir réussi au fil des années à me retrouver dans une activité qui est en phase avec qui je suis. Mais je n'échappe pas, comme tout le monde, dans ces périodes que moi j'appellerais troublées, à des moments d'effroi, de doute, de questionnement. Simplement, j'ai cette habitude de laisser passer, de laisser couler, de ne pas conclure trop vite qu'une journée est perdue, qu'un effort ne sert à rien. Et que la suite ne pourrait être que la continuité d'une journée grise. Donc, il y a un effort personnel, une discipline personnelle quotidienne qui peut surprendre puisque l'objectif est d'être à force maximale, c'est exagéré, mais en constante connexion avec les forces qui sont en nous. En fait, ça n'est pas tant donné naturellement que cultivé, travailler, remis sur le tapis.
Et justement, il me semble en tout cas qu'être ancré, mais en même temps souple pour faire corps avec les événements et tous les défis que nous traversons, il me semble que c'est une clé pour rester debout. Et ça m'évoque cette notion qui est tellement complexe pour nous occidentaux à comprendre, le wu-wei, la maîtrise du lâcher-prise. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer cette notion de maîtrise du lâcher-prise que je retrouve dans vos mots ?
Alors, c'est intéressant. Maîtrise du lâcher prise. Il y a encore cette idée de maîtriser quelque chose. Or, là, plus nous contrôlons, plus nous tentons de contrôler, plus nous tentons d'imposer, plus nous tentons de forcer, plus que nous ayons des résultats, on peut avoir des résultats, hein, mais plus nous allons tirer sur nos forces. Or, cette maîtrise du lâcher-prise, qui est simplement, pour moi, l'acceptation d'être à tout moment comme un bouchon sur un cours d'eau, chahuté, des fois ça coule bien, des fois on reste coincé dans une crique, ça n'arrive plus à avancer, c'est d'être en fait en acceptation et en acceptation de ce qui est et en présence du moment. Donc je passe moins de temps à rêver à ce qui n'est pas, ou à tenter de minimiser la gravité d'une chose, ou à, au contraire, surestimer quelque chose de positif, plutôt qu'à être, alors simplement, mais c'est pas simple, à être simplement consciente de ce qui se passe, mais aussi toujours des effets que ça produit en moi. Parce que ce que je cherche, cette maîtrise du lâcher-prise, elle est en fait d'arriver le plus possible, et que je sois claire, c'est impossible, tout le temps, partout, même au plus aguerri. Hein. Mais c'est d'arriver et de viser, là je suis en train de mettre la main sur mon ventre, sur le là où est le nombril, hein, c'est de viser à ce que cette part de nous soit calme, apaisée. Hein. Ou une autre manière de dire les choses, c'est de faire redescendre, à la chinoise on dirait le feu qui est dans la tête. Donc chaque fois que je repère une divergence, un écart en moi par rapport à un état de calme, je suis en alerte de ce qui a pu dérailler mon calme et provoquer un début d'agitation ou un début d'énervement ou même une colère déjà déclarée. Hein, nous sommes humains. Et au lieu de me laisser emporter par cette émotion, je l'accepte. Et c'est comme si, moi je suis un petit peu particulière, je vais dire, bon, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Sachant que mon objectif est de revenir à un état d'apaisement. Pour moi, le moment où l'on s'énerve, où on déraille, où on se, etc., est une clé que je chope tout de suite ou le plus tôt possible.
Hein,
non pas en me reprochant quoi que ce soit, non pas en suivant un penchant naturel qui pourrait être de réagir, etc., mais de me dire, ok, là, est-ce que ce vers quoi tu es en train d'aller va bien correspondre au but que tu t'es fixé, qui peut être, par exemple, dans des journées d'écriture, d'arriver à finir un certain nombre de pages. Et c'est de cet alignement ou pas avec ce que je sais que je cherche à faire, que je vais modifier ma posture. Donc, en fait, la réponse est longue. Je suis un petit peu désolée, hein, mais c'est d'être en... C'est très différent d'un lâcher-prise où arrivera ce qui arrivera, de toute façon, je reste zen en toutes circonstances. Parce que ça, c'est pas si facile, c'est pas si possible que ça. C'est plus d'avoir une... Là, je suis en train de mettre mon doigt sur mon poignet gauche. C'est d'avoir une capacité qui s'est développée avec les années, mais qui n'est pas si difficile que ça à apprendre, de mesurer mon degré d'agitation ou pas.
Et justement, la question que je me posais, derrière votre titre « Debout », vibre une forme en contrepoint d'abattement qui peut nous saisir parce que, bon, bah, comme je le partageais, les défis sont tellement immenses qu'on peut être découragé. Quelle est la limite entre acceptation et résignation, la limite ou la différence entre les deux, et quel carburant vous nous inviteriez à mettre dans notre moteur, ou plutôt nos cœurs, pour justement être dans une acceptation, mais qui soit constructive?
Alors, l'acceptation n'est pas l'acceptation de la défaite ou d'une malédiction de nos vies a priori. Elle est temporairement la prise en compte de la situation d'obstacle dans laquelle nous sommes. La résignation, peut d'ailleurs fonctionner par moment, elle peut être utile, on peut se dire ok, je n'arriverai jamais à sauter telle hauteur en saut en hauteur. Bon, s'il s'agit d'une lecture pertinente par rapport à nos forces, encore une fois, ce n'est pas vraiment de la résignation, c'est de faire une addition, tirer un trait et de se dire il y a des portes que je n'ai pas vraiment intérêt à pousser parce qu'elles vont me mettre en déséquilibre avec les forces que j'ai. Mmh. Hein? Donc, l'acceptation, en fait, l'acceptation pour moi, c'est j'accepte ce qui se passe aujourd'hui, mais si aujourd'hui se termine moins bien que je ne le souhaiterais, je refuse de conclure que demain n'est pas un autre jour, me donnant la possibilité de bouger les lignes. Et là où je suis certainement aidée pour ma part, c'est cette vision, bien sûr souvent comme dans tous mes bouquins, qui sont quand même empruntés en partie à la pensée traditionnelle chinoise et justement à l'art de la guerre ou à une autre manière de voir les choses que nous occidentaux, c'est cette idée que les maisons, les bâtiments, les projets ne se construisent pas en une fois. Ça va être des petits pas répétés, des tas de journées mises derrière, les unes derrière les autres, des efforts qui des fois n'aboutissent pas, mais qui vont étant renouvelés, vont finir par porter leurs fruits. Et j'ai souvent cette image d'un enfant qui commence à marcher. Hein. Le nombre de fois où un jeune enfant tombe, c'est y a de quoi se décourager. Or, aucun d'entre eux ne conclut en général, j'y arrive pas, je tombe, je vais donc me résigner, je ne marcherai jamais. Dans notre culture, nous avons, d'abord on valorise la perfection, le succès en toutes choses, et puis on a cette illusion de ce que la force, la volonté vont nous permettre d'y arriver. Oui, bien sûr, mais à quel prix ? Ce qui fait que les montagnes éventuellement se déplacent, d'abord c'est déplacer une ligne, puis une deuxième ligne. Et puis bien souvent, on en déplace une, on recule de deux lignes, mais tant que nous ne nous résignons pas justement, mais acceptons que c'est simplement difficile aujourd'hui. On ne peut pas dire que 2020-2021 ne sont pas des années extrêmement difficiles. On est dans des temps troublés. Nous sommes dans une période où l'habitude que nous avions avant de pouvoir compter sur des solutions préexistantes ou faciles à mettre en place ou ne bousculant pas nos habitudes de faire, cette illusion-là, elle a volé en éclats. Hein. Donc, nous sommes collectivement face à un problème et individuellement, pour la première fois depuis très longtemps, face à notre responsabilité individuelle, un, de collaborer ou pas avec ce qu'on nous propose, ce qui n'est pas simple, mais aussi à la responsabilité individuelle de prendre nos propres vies en main, c'est-à-dire d'être le plus calé avec ce que nous savons individuellement qui viendra, justement dans une période troublée, nourrir notre vitalité.
Oui, et justement, quelle est l'articulation entre le centrage individuel, parce que votre livre est vraiment un appel à se redresser individuellement, mais comment va se tisser et s'articuler ce centrage individuel avec le changement collectif ?
Alors, super hein, question, parce que c'est vraiment la question. Moi, je le prendrais dans l'autre sens, en posant le fait que la société est avant tout un agrégat d'individus. Plus l'énergie, alors on va parler d'énergie vitale hein, en lien avec l'énergie arctique chinoise, mais on va dire plus les individus sont en phase avec eux-mêmes, sont en cohérence avec eux-mêmes, alors que la situation les déséquilibre. Plus chacun est au service de sa vitalité individuelle. on va y revenir à la question de comment, hein, plus la famille en question, une famille de 3 personnes ou de 5 personnes, plus la collectivité en question, une équipe de 50 personnes ou une entreprise de 3000 personnes, la vitalité de la famille, de l'équipe, du quartier, de l'entreprise, de la société, du pays, est en fait le résultat, ça vient du bas, le résultat de l'agrégat de toutes ces énergies individuelles. Or, nous sommes habitués à des systèmes où la responsabilité, je ne sais pas si je vais oser le dire, mais où la responsabilité de ce qui ne va pas va être liée au climat, à l'économie, aux politiques, à l'assainissement des eaux qui marchent ou qui ne marchent pas, etc. Dans cette lecture du monde, je ne me décourage pas parce que tant que je suis en vie, j'ai à ma disposition la responsabilité de cultiver qui je suis, et faisant cela, je vais avoir à ma disposition des forces de vie qui vont me permettre d'agir davantage au niveau du quartier, de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc, ce que je dis là n'enlève pas le sentiment de désarroi collectif possible, qui est de « où allons-nous collectivement ?» Donc, cette question, je l'ai, mais je la laisse de côté. Je la remplace par la question « où est-ce que je vais moi-même, étant responsable de mes forces, et ce faisant, étant plus ou moins capable d'épauler ce que je compte, de partager davantage, de donner éventuellement, de permettre une mise en perspective qui va permettre pour moi, à peut-être même qu'un seul lecteur, de ne pas s'endormir avec le sentiment de découragement qu'il ou elle avait le matin même.
Et justement, cette force de s'incarner, si je retourne le titre…
Oui.
Comment peut-on s'incarner avec force, c'est-à-dire avec une forme de puissance, mais qui ne soit pas de la violence, dans une époque où tout est fait pour nous séparer, pour nous opposer,
en binaire, en mode binaire.
Binaire, complètement.
Alors la première réponse, ce n'est pas en claquant dans les mains. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous pouvons changer d'un paradigme où où nous pouvions, je vais exagérer, mais manger n'importe quoi, faire n'importe quoi, etc. Et puis finalement toujours avoir le médicament miracle qui allait nous, j'exagère, hein, mais qui allait nous sortir d'affaires, ou la police d'assurance qui allait réparer ce qui devait être réparé. C'est pas du jour au lendemain que l'on peut passer d'une posture où nous ignorons quelque part la responsabilité individuelle de nourrir nos forces, et c'est pas simplement en calories, hein, c'est pas simplement en nourriture bio, c'est aussi en connexion, en qualité de lien, en qualité de lieu de vie, en qualité de d'échange professionnel, etc. Donc c'est pas du jour au lendemain que si nous n'avons pas fait attention aux conditions qui nous dynamisent, et qui nous dynamisent pour être, quand je dis dynamiser, c'est qui donne à la personne l'envie de sauter du lit le matin pour aller faire ce qu'elle a à faire. Bon. C'est un travail ou une conscience répétée. Au départ, c'est souvent des situations qui ne nous conviennent pas. Alors, on va me dire, on n'a pas le choix. Mais oui, mais pendant, bien sûr, on a parfois, longtemps, pas le choix. Mais tant qu'on n'a pas acquis, développé, travaillé la conscience de ce qui nous booste par rapport à celle ou aux mémoires qui nous donnent de la force, on peut même pas démarrer. C'est-à-dire qu'on a un retard colossal. Alors la bonne nouvelle, c'est que je mets tout de suite sur la table, c'est que, un, il n'y a pas d'âge pour se repositionner et commencer à s'aligner, ne serait-ce qu'un millimètre par jour, vers des activités, auprès de personnes, ou auprès de lectures, ou auprès de lieux qui nous donnent de la force. Et une fois qu'on a fait un pas, c'est le premier pas qui coûte, et que l'on refuse de se laisser décourager par un système extérieur qui va d'un revers de main nous dire « Ah mais non, mais ça sert à rien ce que tu fais, ou pourquoi tu veux changer, et puis ton boulot il est bien, c'est quoi ton histoire, etc. » Il y a aussi à travailler en même temps une forme de résilience que nous avons tous. C'est simplement un muscle qui est bien souvent dormant. Pour, d'un côté, repérer de plus en plus et éliminer doucement, ni vu ni connu, ce qui nous plombe, tout en introduisant dans nos journées, dans mes livres, il y a plein d'exercices simples, parce que ce sont en fait des choses simples, c'est la beauté, elle est dans des petits pas qui ne se voient presque pas, mais qui sont cumulés, efficaces. Et donc de l'autre côté, c'est de ne pas passer une journée. Alors après, on pourrait augmenter la dose, hein, une demi-journée, une heure, oui. sans privilégier ou tendre vers, pendant longtemps c'est simplement tendre vers, des situations, des lieux, des personnes qui sont en phase avec notre énergie. Et il y a derrière tout ça aussi, ce que le sous-titre du livre hein, est « La force de s'incarner », c'est que je considère fondamentalement, alors on peut dire que c'est une croyance, le label qu'on met dessus m'est absolument indifférent. Je considère que fondamentalement, aucune de nous ne naît démunie, sans talent, porteur d'un destin cassé d'avance ou d'une malédiction dont on n'arrivera jamais à s'en sortir. Simplement, c'est que ça nous est pas dit. Nos systèmes, et il a tout le système scolaire, il a des tas de qualités, etc. Mais notre système d'éducation sociétale, nos modèles favorisent, depuis qu'on est petit, hein, favorisent une lecture presque pyramidale des choses. Il y a les bons en maths et puis il y a les pas bons en maths. Il y a ceux qui ont du talent, puis il y a ceux qui n'ont pas du talent. Sauf que à partir du moment où l'idée même d'un modèle unique qui tendrait vers une certaine forme de perfection est compris comme n'étant pas réaliste, n'étant pas possible. En fait, dans la pensée chinoise classique, la perfection n'existe pas. C'est un objectif vain, elle appartient à un état d'avant le monde manifesté où tout était en ordre, mais où il n'y avait pas la vie. Parce que dès que la vie arrive, ça désorganise, ça déborde. Hein. Tous ceux qui ont des jeunes enfants chez eux ou des petits-enfants savent que bon, bah, c'est après le passage des enfants, des petits-enfants, il faut ranger, etc. Hein.
Et tout ça m'évoque en fait aussi votre idéogramme qui figure sur la couverture de votre livre, où alors je ne sais pas ce qu'il signifie, mais j'ai cette impression de mouvement, d'élan vers l'avant, et à la fois il est ancré entre terre et ciel, et voilà, j'ai cette impression qu'il y a vraiment une mise en mouvement qui nous permet de sortir à la fois du conformisme et du figement mortifère.
Et du fauteuil aussi, tout à fait. Bien sûr. Et donc le caractère, c'est un caractère qui est fondamental. Hein. En fait, signifie grand. Hein. Il y a aussi une forme directionnelle qui est donnée par les bras. Mais le caractère initial, les deux traits verticaux représentent un individu debout qui marche, qui n'a pas de tête. Hein, c'est l'idéogramme chinois qui signifie l'individu, la personne. Contrairement à nos pictogrammes occidentaux où un individu ne peut pas se reconnaître sans une tête et des épaules larges, là on a une symbolisation d'un individu qui est en train d'avancer de profil à grandes enjambées. Parce que la vie est du côté du mouvement. Donc, un moment d'abattement, et j'en ai aussi, tout le monde, hein, dans un moment d'abattement, le moment d'abattement provoque un ralenti, parfois même une sidération ou nous fige. Et la réponse est naturellement le fait de s'asseoir. Hein, si on est en mode métaphorique, hein, de s'asseoir, de se poser. Dans certains cas, on va même se coucher. Et puis, quand on n'a même pas envie de se relever. Or, parfois, c'est totalement nécessaire. Hein, il est important, il y a le mouvement de d'avancer où on est en mode d'inspire et puis le moment de repos où on est en mode d'expire, bien évidemment. La vie ne peut pas être que mouvement. Mais ce que quand je disais tout à l'heure que je suis en alerte, hein, quand je suis dans une discussion ou dans un lieu où je sens monter en moi des forces qui me donnent envie de m'asseoir parce que c'est lourd. C'est pour moi une alerte de ce que je suis en train de perdre mes forces. Dans certains cas, ça vaut le coup. Et puis, on ne peut pas se sortir de toutes ces situations-là. Mais je sais que le contre-pied est alors nécessaire. Et le contre-pied, je le dis dans certains paragraphes de mes livres, le contre-pied va être de justement sortir faire un tour, c'est-à-dire se remettre en mouvement. Or, quand nous sommes accablés, la dernière chose que nous avons envie de faire, c'est de bouger. Et là s'installe le cercle vicieux. Mais si nous attendons 15 ans pour reconnaître que la situation que nous vivons est lourde et pénalisante, il est clair que ce n'est pas en 24 heures que nous allons pouvoir en sortir.
D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous partagez ce que vous appelez des parades, c'est-à-dire des pratiques, oui, qui peuvent nous aider à la fois à être dans cet élan du vivant, mais en même temps nous redresser. Est-ce qu'il y a une parade ou quelque chose que vous nous conseilleriez en pratique et qui pourrait nous aider ?
Je pense que la plus utile, alors elles sont toutes utiles, hein, parce qu'on pourrait presque les dire, hein, le recul, l'ancrage, la feinte, laisser glisser, répéter, se redresser, l'avancée, l'acceptation. La plus utile, en tout cas dans ma pratique, à l'écoute de quand même beaucoup de gens depuis de nombreuses années, hein, c'est de développer la capacité, comme un canard, à laisser glisser l'insulte, la critique, comme de la pluie sur nos plumes. Ne pas relever, ce que j'appelle laisser glisser, laisser couler.
C'est très d'actualité par rapport justement à ce qu'on disait à toutes les polarisations et à tous les débats très envenimés qu'on peut avoir.
Totalement, mais c'est laisser glisser et ce qui va avec, il y a un autre degré qui est ne pas s'engager, ne pas engager. Hein, parce que laisser glisser a comme objectif de laisser passer un temps qui calme le jeu, mais aussi de nous empêcher d'embrayer la riposte. La riposte, après, c'est l'escalade. Après, ça va plus loin. Donc, de repérer, toujours pareil, de repérer l'agitation dans laquelle un propos va me mettre, me fait... Alors moi, j'ai pas je regarde peu les informations, mais si c'était le cas, me fait éteindre le télévision. Alors vous allez me dire, mais là, Marie-Pierre, vous nous conseillez de rentrer en censure. On va à ce moment-là, on peut plus rien entendre, on peut plus rien écouter. Mais ça, c'est là, on va trop vite. On ne peut plus. Je n'aurais pas dit, j'éteins tout, j'éteins ça. Vous voyez, oui. Et nous avons une capacité à passer du tout ou rien. On va beaucoup s'enthousiasmer pour quelque chose ou pour une personne, hein, ou pour une activité. Et puis, très vite, être capable de diaboliser la chose. Ah mais non, finalement, je me suis trompée. En fait, il est très rare qu'il y ait tout à jeter. Donc, la capacité de laisser couler, l'autre parade, c'est de reculer d'un pas. Des fois même, c'est de reculer physiquement d'un pas. Tout ça, ça permet de faire encore une fois descendre l'agitation que nous avons dans la tête.
Et c'est étonnant que vous parliez de canard, parce que des plumes du canard, parce que également, je sais que la nature vous est chère. Dans la nature, il y a justement ce qu'on appelle le plumage d'éclipse. Le canard, il y a un moment où il s'éclipse pour renouveler ses plumes. Et ça, c'est dans un livre qui est consacré aux oiseaux philosophes que je l'ai découvert. Et c'est un temps d'arrêt. Et dans notre société, on a vraiment du mal à se mettre par moments au calme, à se mettre en retrait et à s'éclipser, mais pour mieux renaître, c'est pas s'effacer.
Non, c'est pas s'effacer, puis c'est surtout, il y a toujours l'autre parade, hein, c'est ne concluez pas, maintenez en suspens votre décision, votre conclusion. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que ça n'ira jamais. C'est pas parce que tel partenaire est déconnant ou pas sympa aujourd'hui qu'il n'est pas le bon. Hein, donc la capacité à ne pas enclencher un mode conclusif négatif qui souvent va s'empiler sur des déceptions précédentes est un art qu'il convient de cultiver. Et bien évidemment, à l'heure actuelle, dans la foulée de ce que vous venez de dire, on a la chance, on va dire, de pouvoir être connecté tout le temps, partout, quoi qu'il arrive. Alors moi, j'arrive quand même à trouver, étant beaucoup en extérieur et dans la nature, le fait de pouvoir trouver des endroits où il n'y a pas de connexion téléphonique est pour moi un plus. Mais je ne suis pas sortie de moments de, je ne veux pas dire de culpabilité, mais d'agacement quand on reproche qui me sont faits parce que je ne suis pas systématiquement joignable. Or, donc c'est très difficile de se couper, de se retirer, parce que ce faisant, nous privons l'autre de l'intérêt qu'il attend de nous, de l'attention qu'il nous demande. Or, personne ne peut être connecté tout le temps. Mais la société ne nous l'autorise pas suffisamment. Alors moi, un peu à contrario de beaucoup de monde, j'ai vu néanmoins un intérêt aux périodes de confinement qui étaient, c'est vrai, difficiles, imposées, etc. Je veux dire, si on avait eu le choix, ça aurait été mieux de ne pas en avoir. Mais parce que c'est à l'humanité tout entière, à des moments différents, parce qu'on n'était pas tous exactement calés sur les mêmes périodes, qu'a été imposée une obligation de calmer le jeu. Alors, de vide. Et ce vide a créé un vrai désarroi chez certains, parce que tout d'un coup, nous n'étions pas comme le hamster à être sans arrêt à tourner dans la cage. Hein, parce que tout d'un coup, nous étions confrontés à du vide ou alors à des questions de fond. Et c'est douloureux. Sauf que sans période de pause et de retrait, qui souvent dans nos sociétés se limite au temps de vacances, et encore, hein, de vacances, eh bien, on ne recharge pas nos batteries, deux, nous n'avons pas le recul nécessaire et la disponibilité nécessaire à accueillir une suite différente de ce qu'on est déjà en train de tisser.
Absolument, et on est au cœur des arts martiaux d'ailleurs. C'est un temps de vide, de recul, d'utilisation de l'énergie de l'autre. Donc tout ça, c'est les arts martiaux en fait.
Mais bien sûr, et donc en tout cas, mon deuxième livre, enfin le livre précédent de celui que vous avez cité, Oser s'accomplir, est basé sur 12 chapitres. On peut en faire un par mois de certaine manière, qui sont 12 postures. Tirer les arts martiaux, il y a être en cohérence, être en alignement, ne faire qu'une seule chose à la fois. Et je lisais tout à l'heure encore une citation chinoise qui disait de faire une chose à la fois, c'est-à-dire de ne porter notre attention qu'à une seule chose au moment où nous la faisons, permet de vivre 3 jours en une journée, c'est-à-dire d'étendre le temps. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes plus efficaces sur ce que nous faisons. Donc vraiment occupés à l'action, que nous sommes dans l'action, vraiment occupés au vide que nous sommes dans le vide. Et ces alternances qui aujourd'hui sont loin d'être 50% d'action et 50% de repos, de reconnexion et de remplissage de nouveau de nos forces, on est loin d'être à 50-50.
C'est sûr. Et par rapport à cette économie, parce que aussi vos livres nous invitent à économiser nos forces, mais avec justesse, non pas à les économiser.
C'est pas pour les mettre sur un compte en banque et les avoir dans la vie d'après. Hein. C'est quand même pour les utiliser à fond quand on les utilise.
Et est-ce qu'il y a dans cette façon d'économiser nos forces, est-ce que l'alimentation, qui est importante dans la médecine traditionnelle chinoise, est-ce qu'il y a des conseils alimentaires qui pourraient nourrir notre force d'incarnation, mais aussi nous permettre d'économiser nos forces qui, pour l'instant, en tout cas, sont très sollicités.
Eh bien, la réponse est évidemment oui. Comment s'aligner là-dessus ou comment avancer là-dessus, c'est à défaut de rien savoir, c'est plus on élimine ce dont nous savons que nous avons du mal à digérer, mieux c'est. Et c'est pas de gluten pour tout le monde ou pas de laitage pour tout le monde. Ça dépend. Hein. Selon notre trame énergétique, il y a même aussi des études selon notre groupe sanguin, certains aliments vont nous dynamiser plus que d'autres. Bon. En l'absence de ces connaissances, ce que l'on peut quand même dire, hein, c'est que moins notre corps est fonctionnant parce qu'il ne digère pas bien, ne dort pas bien ou ne bouge pas assez, plus nous allons nous retrouver encrassés, plus la capacité de rebond va se trouver limitée, plus nous aurons envie justement de digérer non seulement tel repas, mais aussi telle remarque critique que nous avons eue dans la journée en restant assis dans un fauteuil. Donc l'alimentation est l'étape numéro un. Il m'est même arrivé de refuser des consultations en disant à la personne, vous changez pas. Je suis pas naturopathe, hein, et je ne suis pas nutritionniste, mais vous n'avez toujours pas changé votre alimentation. C'est pas la peine d'investir dans une consultation avec moi parce que, par exemple, une des choses en médecine chinoise, trop de sucre va nourrir potentiellement le ressassement. Donc, ça sert à quoi d'avancer sur la clarification d'un problème en mode stratégique si nous n'éliminons pas de nos vaisseaux, de notre tuyauterie interne, une substance qui va nous ralentir? Et donc, y a vraiment trois pôles. Hein. Tous les jours, c'est comment avons-nous digéré aujourd'hui? En gros, comment fonctionne notre système digestif? Hein, comment dormons-nous? Et comment bougeons-nous? Alors, la question du sommeil, on me dit souvent, mais justement, je ne dors pas parce que je n'ai pas encore résolu ce problème. Et moi, je dis, non mais... pour pouvoir résoudre ce problème, il faut commencer par bien dormir. Ah mais oui, mais je ne peux pas bien dormir puisque je n'ai pas résolu. Et donc, on part comme ça. Or, les conditions qui favorisent notre sommeil n'ont finalement pas grand-chose à voir avec le problème lui-même. C'est-à-dire que c'est une certaine régularité. C'est la qualité du matelas. C'est la qualité du lien que nous avons avec la personne à côté de qui nous dormons. Alors, vous allez me dire, là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, hein? La digestion agit sur le sommeil. La quantité de pas que nous avons parcourus dans une journée influe sur notre capacité à bien dormir. En gros, moins nous sommes dehors à bouger, plus l'énergie accumulée va être... une énergie plus de qualité nerveuse ou émotionnelle que de qualité physique. Donc, les trois axes, alimentation, digestion, activité et qualité du sommeil, moi je vois des chambres à coucher dans ma partie spatiale, hein, des chambres à coucher qui sont bourrées, d'excitants. C'est quoi? C'est la télé, La plateforme de jeux vidéo, les dossiers du divorce, ceux qui sont encore à côté du lit, le volet qui ferme pas, le bruit de la chaufferie de l'étage du dessous ou le bruit de l'ascenseur derrière la cloison. Ces problèmes-là, eux non plus ne peuvent pas se résoudre en un jour, mais de les ignorer, c'est-à-dire de ne pas s'intéresser suffisamment à la qualité des lieux que nous côtoyons.
Et j'allais prolonger justement par rapport à cette qualité des lieux, puisque ces arts stratégiques chinois, il y a également...
Le feng shui, bien sûr.
Il y a une question d'espace et de temps, chevaucher le temps, apprivoiser l'espace qui était un sous-titre d'un autre ouvrage que vous aviez écrit sur le feng shui, justement. On a été quand même confinés. Il n'est pas dit que, en tout cas, si on suit le livre « La fabrique des pandémies » de Marie-Monique Robin, qu'on entre dans un confinement chronique. Quel serait justement, vous parlez là de la chambre à coucher, de la qualité du matelas, quel serait un lieu de vie ressourçant quand à l'extérieur tout est en chaos ?
Alors déjà, c'est parce qu'à l'extérieur tout est en chaos que nous avons à porter davantage attention à l'intérieur. Hein ? Et je disais aussi dans ce premier livre que notre première maison, c'est notre corps.
Oui.
Bon, donc là, on a parlé du corps, de l'alimentation, etc. Ensuite, le lieu dans lequel nous vivons. Le lieu dans lequel nous vivons... Il y a tellement de choses à dire. Hein. Mais ce que les confinements précédents ont créé, ça a été de faire avancer, de faire un petit peu bouger les lignes, et la conscience que nous avions de l'adéquation entre les lieux que nous occupons déjà ou pas. Un grand nombre de personnes que j'ai pu suivre ont fini par réaliser, comprendre, accepter que leur lieu de vie n'était en fait pas en phase avec ce qu'ils souhaitaient. Donc certains ont déjà pris leur clic et leur claque, sont partis à la campagne, ont déménagé, ont bougé. Hein. Si nous ne pouvons pas partir, la première chose à savoir, et qu'on a quand même compris que ce lieu n'est pas optimum pour nous, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on y est coincé maintenant que nous y sommes coincés à jamais. Plus nous inscrivons nos efforts dans une durée, pas parce que ça doit durer, mais parce que ce que l'on fait, de faire une petite chose tous les jours, est mieux que de vouloir tout changer d'un jour à l'autre. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de repérer dans la chambre, dans la pièce, dans le bureau, ce qui y est encore et qui nous... Alors je vais être simple, hein, qui nous plombe. Telle photo encore sur un mur, tel vase qui nous a été donné ou tel objet qui nous a été donné qui nous rappelle du passé, du révolu, du brisé, de l'ancien, du derrière nous. Bon. Et puis, une fois par jour, on agit là-dessus. J'avais mis, il y a l'exemple du tableau dont on n'arrive pas à se défaire. Bon, ben, on va y aller doucement. Il y a ce tableau, il est... Enfin bref, je ne vais pas inventer les circonstances, mais c'est son... Bon, ben, il est au mur, on n'arrive pas à l'enlever parce qu'on ne sait pas quoi en faire. La première chose, on ne se prend pas la tête, on le décroche, on le met exactement au pied du mur là où il était. Bon, on n'a pas fait changer grand-chose, hein, il est toujours là. Quelques jours après, vous revenez, vous le tournez face au mur. On n'a pas changé grand-chose, il est encore là, mais au moins on ne le voit plus. On ne voit plus devant. Quelques jours après, vous le bougez ailleurs, dans une autre pièce. Il n'est déjà plus là. Donc là, vous gagnez de l'espace de respiration dans ce lieu-là. Et puis, quand les forces vont revenir, parce que c'est graduel, hein, et tant qu'on est en vie, les forces sont là. Nos forces de vie, c'est comme des chats tapis derrière un fauteuil. C'est toujours prêt à revenir dès qu'on leur fait de la place. Et puis dans quelques jours, vous prenez le truc, le tableau, vous allez le mettre à la cave. Alors à la cave, j'ai pas de cave. Ah ben au grenier, j'ai pas de grenier. Dans la voiture, j'ai pas de voiture. Eh bien vous vous débrouillez pour qu'il sorte du lieu dans lequel l'objet en question ou le papier en question ou la photo en question, vous prenez du temps, de l'énergie, donc du temps. Le lieu est un allié de vos forces ou un empêcheur de tourner en rond. Tout ce qui l'occupe, même sans connaître les techniques du feng shui, tout ce qui peut être parfois quand même assez complexe, nous avons la capacité de repérer autour de nous les objets, les activités, les situations, les personnes qui nous liment de la force. On ne peut pas tout changer tout de suite, immédiatement. Ce n'est même pas forcément souhaitable. Mais il convient de s'endormir deux choses. Je dis deux choses. Hein. La première, c'est de... Si dans une situation où nous avons l'impression d'être coincés, nous pouvons au moins nous endormir en ayant fait une petite chose. Souvent, on ne peut pas enlever ce qui ne va pas, mais dans ce cas-là, on peut augmenter ce qui pourrait aller. S'acheter enfin l'exemple idiot, mais qui est réel, la confiture qu'on aime soi, quand bien même on est la seule personne à l'aimer. Bon, ben demain matin, vous aurez votre confiture à vous.
C'est ça.
Et l'autre chose, elle est de ne jamais s'endormir le soir sans pouvoir se souvenir d'une seule chose nouvelle qu'on a fait chaque jour. On va me dire, mais moi, je ne sais pas quoi faire d'autre. Bon, ben, si vous vous lavez les mains, si vous lavez les dents avec la main droite, aujourd'hui, vous allez vous laver les dents avec la main gauche. C'est une chose nouvelle. Parce que la vie... On est par moments comme des galets, hein. On est roulé, puis on est de plus en plus lissé, puis finalement on perd ses aspérités. Or nos aspérités, ce sont nos différences, c'est ce qui fait que nous avons des besoins, des désirs différents. Il faut rester connecté à ça. Donc le fait d'activer l'énergie du neuf, du nouveau, alors que c'est aussi cucu de simplement faire une chose autrement. En fait, ça, c'est connecté à une énergie bien plus large que nous, qui est celle du renouveau, qui est celle du printemps prochain 2022, qu'on ne va pas voir tout de suite. Mais c'est la même énergie. Donc, de provoquer, moi j'en fais des jeux, hein, mais de provoquer des instants où nous ne nous résignons pas, en refusant de faire tous les jours exactement la même chose, est en fait très directement connecté aux forces de rebond que vous aurez dans 2 ans ou dans 3 mois, vous permettant de changer de lieu et pas simplement d'enlever un objet qui ne vous convient pas.
Et justement, en parlant de renouveau, parmi ces outils que vous pratiquez, il y a également la lecture énergétique, de la qualité en tout cas d'énergie des années en lien avec l'astrologie chinoise. Oui. Quelle est votre lecture énergétique de 2022?
Va quand même écouter, se faire un tout petit peu plaisir.
Oui, c'est pour ça.
Et parler. Enfin, c'est pas qu'on s'est pas fait plaisir avant, mais oser nommer un petit peu de lumière. Parce qu'à l'heure actuelle, par moment, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Hein. Donc là, cette lecture-là, que je précise bien, elle ne prédit pas ce qui va arriver, mais c'est comme une météo temporelle, elle donne les lignes de force des années à venir. Hein. Donc dans ce mode de pensée, 2020 était une année, via des cycles de 60 ans, hein, donc 2020 était posée comme une année au service d'un énorme chambardement difficile. Il y avait l'image d'une vague, d'un tsunami tellement puissante qu'elle était là pour déglinguer le système. On va me dire c'est négatif de déglinguer le système. Sauf que cette vague est au service de fissures allant permettre d'autres manières de faire. Mais le nouveau, encore une fois, ne peut pas s'installer si l'habitude, le passé, est trop massif. Ensuite, arrivé 2021, hein, le bœuf de métal. Donc là, on a une année, les mots-clés, on est encore dedans jusqu'à fin janvier, les mots-clés étaient et demeurent année constructive et lente. Lente, on voit ce que c'est à l'heure actuelle, hein, lente. On s'en sort pas, c'est pas encore fini. On voit bien qu'il y a des nouvelles, enfin, on voit bien qu'il y a des espèces de remous, qu'il y a des nouveaux modes de faire, que les choses changent, mais bon, constructif à la chinoise, ça veut dire plus nous nous y mettons chacun, plus nous sommes en responsabilité individuelle de participer au renouveau qui vient. Et là, moi, je ne parle pas simplement de se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Hein. Je parle d'une capacité de lucidité par rapport aux activités que nous avons, aux choix que nous avons déjà faits. Hein. Plus nous mettons la main à la pâte pour prendre en charge ce que nous pouvons prendre en charge à l'échelle individuelle, à l'échelle professionnelle, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de la famille, plus nous allons préparer le terrain du renouveau. Ensuite, c'est votre question, arrive 2022 et en fait trois années, pas simplement 2022, qui vont être très chargées en énergie de renouveau. C'est l'élément chinois du bois, il n'y a pas que le bois, mais en particulier. Donc, en fait, l'année qui suit les trois années qui viennent sont proposées comme étant celles qui récompense le travail, je me permets l'expression, de démolition d'un ancien ou d'un obsolète qui ne pouvait pas durer, et aussi de remise en jambe, de résilience, de travail sur nous, de patience, nous permettant d'être prêts, dispos, en forme, pour profiter du renouveau qui ne sera pas que le renouveau du printemps, aussi en termes d'économie, l'énergie du bois a à voir avec la croissance des cellules, des idées, la croissance des concepts et aussi des savoir-faire. Donc nous avons à tenir les quelques mois qui nous séparent d'un vent de renouveau, mais le vent de renouveau ne sera pas bon pour tout le monde. Pourquoi ? Maintenant, je vais vous faire peur, mais je veux simplement que je sois réaliste. Le vent, lorsqu'une année favorise du renouveau, c'est une année qui va être à vent contraire pour ceux et celles qui ne voudraient pas changer leurs habitudes. Hein, parce que l'objectif de ces techniques, c'est de minimiser la dépense d'énergie individuelle en s'appuyant, en déployant nos actions dans un moment et éventuellement aussi dans un lieu en synergie avec ce que nous cherchons à faire. Donc tous ceux et celles, par exemple tous ceux qui sont dans des activités créatrices, d'innovation, qui cherchent à percer, à se faire entendre, à proposer d'autres manières de faire, de communiquer, d'être ensemble, c'est plus le mouvement de « on fait tous la même chose » ou le mouvement de masse, et aussi un système pyramidal, on va vers un système qui, pas un système, une énergie temporelle qui valorise davantage les efforts individuels et les efforts collectifs dès lors qu'ils s'articulent autour d'une reconnaissance des talents individuels. Bon, ben, ceux et celles qui n'apprécieraient pas des nouveaux modes de faire, qui vont aussi, le bois est aussi associé à la générosité et à une certaine forme d'humanité, ceux et celles qui sont rétifs à une bienveillance, à une main tendue à l'autre, vont pas aimer les années qui viennent. Et là, on est à l'heure actuelle, avec ce qu'on a vécu, hein, où il y a un système d'opposition, il y a les bons, les méchants, il y a ceux qui sont vaccinés, ils sont bons, puis les autres, c'est des méchants, etc. etc. Ce système, je taquine, mais bon, ce système binaire, antagonistique, est à son apogée, là, mais il est, sa violence est le signe d'une énergie ancienne qui tarde à mourir, qui s'arc-boute. Parce que quelque part, ce modèle-là est sur sa fin. Ce dont la population a besoin, ce dont chacun d'entre nous a besoin, c'est d'un retour d'une confiance dans l'individu, dans sa capacité à faire les choses du mieux possible. Et donc, l'année qui vient, va donner un vent, c'est un vent porteur pour la reprise d'une énergie de création, de renouveau. Il y a quelque chose dans l'air sur les années qui viennent qui me rappellerait, moi, vous savez, les mouvements quand on a eu tout d'un coup l'émergence de l'art nouveau, de l'art déco, de formes nouvelles qui vont se nicher dans tous les domaines de la société. Donc pour moi, ça, c'est positif. La difficulté, elle est de ne pas perdre perspective et de ne pas conclure que nous sommes à l'orée de la fin du monde, de la fin des haricots et de la fin de la liberté individuelle. C'est juste une phase.
C'est sûr, et comme vous le dites très bien, on sent qu'il y a des forces qui s'arc-boutent et on le voit, on est encore en 2021, on le voit à la publication, mais alors là, ininterrompue d'articles qui fustigent toutes les autres façons
absolument,
de vivre,
absolument,
de manger, de se soigner, etc. Pour l'instant, quand ce n'est pas le yoga qui est considéré comme la porte d'entrée, le yoga comme porte d'entrée sectaire, quand ce n'est pas ça, c'est les médecines douces qui sont
c'est tout,
fustigées.
Bien sûr, bien sûr.
Et également la bienveillance. Vous avez parlé du mot la bienveillance. Moi, j'ai été sidérée de voir des articles à charge qui renversent la vapeur. Et bien sûr, bon, il y a bienveillance et bienveillance. On est d'accord, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais malgré tout, de voir la bienveillance comme quelque chose de foncièrement négatif et de foncièrement rabaissé, stupide. Je trouve ça vraiment désolant.
Il y a quelque chose de très insultant,
oui, hein,
Karine, à l'heure actuelle.
Hein. Tout à fait.
La conscience de cette mécanique temporelle permet de relativiser l'horreur du moment. Ce n'est pas de l'excuser, hein. C'est de relativiser l'horreur du moment parce que l'on peut bien comprendre qu'un système qui n'intègre pas suffisamment la différence dans les modes de faire, dans les modes de lecture du monde, est un système qui, à l'heure actuelle, s'arc-boute. Mais pour moi, ça fait beaucoup de mal, mais c'est la fin d'un monde. Hein, et donc, ce qui est difficile, c'est que nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous avons besoin du renouveau, hein, et que il serait très facile, à l'heure actuelle, et humain, de céder à un découragement. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, et c'est paradoxal puisque je prends la parole auprès de vous, je pense qu'à l'heure actuelle, la posture la plus juste et la plus économe de force est de laisser couler, de prendre du recul, de nous centrer sur ce qui nous nourrit, comme je disais tout à l'heure, hein, de ne plus lire ce qui est encore aujourd'hui insultant, et de continuer, comme le caractère qui est sur mon dernier livre, de résolument d'avancer sur notre chemin. Hein. Et ce qu'on oublie aussi, peut-être encore une chose que je veux dire, c'est que nous sommes, dans des moments comme celui-ci, il y a un autre risque qui est de nous sentir seuls. Hein, quand vous êtes le seul non vacciné dans une famille, même étant vacciné, vous vous posez quand même des questions, puis qu'on vous dit mais non, il ne faut pas te poser de questions, etc. Le risque, il est l'accablement. Hein, il est presque un sentiment de fin du monde. Or, nous ne sommes pas seuls. Et notre énergie est connectée à d'autres que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons peut-être pas, qui sont eux aussi dans un certain degré de cheminement, de souffrance, mais dont l'énergie est alliée à la nôtre. Donc moi, je me mets, moi qui suis très souvent quand même, sinon je ne pourrais pas faire le travail que je fais dehors, encore une fois, dans la nature, perdu dans les bois, être perdu pour moi, c'est bon signe. Je me compare à des situations où je suis en train de traverser un paysage périurbain qui ne me convient pas, mais je sais que dans 2 kilomètres, il y a l'accès à telle forêt et qu'il faut juste passer à côté de ce truc-là. Hein, et c'est donc je me centre sur le chemin, je regarde devant moi et je continue d'avancer. Je laisse couler.
Est-ce que c'est une expérience pour... avant juste de nous séparer, je voulais préciser aussi que votre ouvrage « Debout » est né très très vite après « Oser s'accomplir » et qu'il est né, il a été inspiré par une épreuve que vous avez vécue, puisque au tout 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 début de la pandémie, mais vous avez frôlé la mort, avant même que l'on on soit dans cette crise actuelle. Vous relatez dans votre ouvrage cette expérience de mort imminente que vous vivez, et est-ce que ce serait aussi ça quand vous parlez de traverser un paysage périurbain et d'atteindre une forêt, est-ce que c'est ça que vous auriez ramené aussi de ce voisinage avec l'au-delà que vous appelez cet ailleurs?
Il y aurait beaucoup à dire, hein. Moi, je me suis retrouvée, le problème, c'est que je fais souvent les choses à l'avance. Donc là, je me suis retrouvée avec ce que personne ne pouvait identifier comme étant un Covid, parce que ça ne pouvait être qu'une grippe à l'époque, hein, en janvier 2020. Et donc, extrêmement seule à tenter de faire comprendre que je me voyais partir, hein. Mais dans ce moment-là, dans des moments de grand désarroi, la seule chose à faire, est aussi surprenant que ça puisse paraître, est de se confier à l'univers. C'est-à-dire que moi, je me suis vue partir, et j'ai accepté. Le terme d'accepter dans mes mots est vraiment plein et entier. J'ai accepté et j'ai accepté. C'est-à-dire que je n'ai pas lutté. Je voulais rester en vie, mais je n'ai pas lutté. Et c'est à ce moment-là que s'est imposée à moi la conscience de cet autre livre, complètement incongru. C'est pas de ça qu'il s'agissait. Donc, c'est parce que, comme dans les contes d'ailleurs, nous acceptons de traverser sans nous agiter. On n'est pas encore là où on veut être, mais on ne va pas se dire « j'y serai jamais, j'y suis pas encore ». Et dans ce moment-là d'acceptation, nous économisons nos forces, nous accumulons celles qui vont nous permettre de trouver la sortie. Et donc la réponse à votre question, c'est bien sûr… moi, ce que j'ai un rêve qui sera justement peut-être jamais résolu, c'est que je m'étais dit, moi, au début de ma pratique, c'est que plus je connaîtrai toutes ces techniques, hein, plus il sera possible de transmettre ce qui empêche de passer par des épreuves.
C'est ça.
Et bien, finalement, je me suis rendu compte que l'épreuve est constructive de qui nous sommes. Donc, d'envisager des vies lisses, où il n'y a pas d'épreuve, où il n'y a pas de déception, etc., est en fait une illusion. Et puis surtout, de rester sur un strapontin, à regarder passer notre vie, la vie est faite d'opportunités de nous confronter à des forces que nous avons en stock. Et je crois que sans les épreuves, à l'heure actuelle, l'épreuve, elle est collective au niveau de l'humanité. Sans les épreuves que nous traversons, y compris celle d'être confronté à du binaire, vont nous permettre d'accoucher d'un mode de fonctionnement ensemble, dont on parlera, j'espère, dans 3-4 ans, hein, qui nous amènera, je pense, à ne pas regretter ce que nous avons. The rat race, comme on dit en anglais, hein, l'espèce de course folle dans laquelle nous avons tous été ces dernières années, depuis l'emballement du début du XXIe siècle.
Oui, ce qui fait que c'est pour ça que je percevais vraiment votre épreuve, votre passage, comme une parabole, et je pense que c'est une belle parabole pour clore notre entretien, Marie-Pierre. Et en tout cas, je voulais vous remercier infiniment pour la richesse de cet échange. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Oser s'accomplir et également donc de Debout, La force de s'incarner, deux ouvrages qui sont parus chez Mama Édition. Un grand merci, Marie-Pierre.
Merci à vous. Et puis, chaque matin, quand vous êtes un peu triste, remerciez le soleil, parce que lui aussi pourrait se dire « mais pourquoi je me lève ce matin ?» Mais en fait, il continue à se lever.
Merci pour ce
conseil. Au revoir, merci à vous.
Au revoir.
Merci encore de nous écouter. Nous espérons que cette série vous a plu et vous inspirera. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies, Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. En tant qu'abonné, vous contribuez ainsi à une aventure unique pour faire évoluer les pensées et la société. Alors surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. Merci à vous et à bientôt sur Inexploré Digital.